Salut tout le monde, amis de Radio Courtoisie. Vous êtes sur Libre Journal des Controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker et Lara Stam. Ils étaient en direct, je crois, de Moscou avec notre ami Fabrice Sorlin pour une mission passionnante, j'en suis sûr. Je salue bien entendu le retour de Virginie, notre préférence. À nous, chère Virginie de Nini Vlam. Nini Vlam, bien sûr, pas Nini Glam. Même si elle est glam, en ce moment, elle est très très glam. Je sais pas ce qui se passe chez elle. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi est-elle aussi glam, Nini Vlam? Le glamour vient sur Radio Courtoisie tous les samedis matin. Je salue Sylvie ici présente au standard. Elle prendra tout vos appels, donc appelez, et je sais que vous serez passionné par l'émission de ce matin. Je reçois Egon Kragel pour son dernier livre, Référence française. Il est le Michael Jackson des ovnis en France. J'adore. Il a écrit OVNI et pop culture des rockstars, des personnalités les ont vus et témoignent, et pas n'importe quelle personnalité, même des personnalités françaises ont vu des ovnis, et vous allez savoir tout ça très très vite. Donc vraiment, appelez, faites péter le standard. Et puis bien entendu, je salue à chaque fois que cette personne m'envoie un de ses auteurs. Je salue Marie-Hélène Doré, la sublime.
Magnifique.
Marie-Hélène Doré.
Magnifique.
Voilà, magnifique. Comment vas-tu, cher
Bien, et toi?
Cher Egon.
Merci.
Tu un peu plus près du micro, là.
Bien, merci. Hop là.
Voilà. Je m'avance. Un peu plus près du micro.
Je m'avance. Comme ça, je mange.
Tu es référence, faut dire les choses. Voilà. Il y a Jean-Claude Bourré et à toi au niveau des ovnis dans ce pays.
Ouais, il y en a quelques autres aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai été catapulté à mon corps défendant expert. Alors, ça m'a toujours fait rire parce que expert. D'un dossier qui est impréhensible, que l'on peut étudier. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, depuis l'enfance en fait.
Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu le Fox Mulder français?
C'est grâce à mon papa, le colonel.
Voilà, raconte-nous un peu.
Papa colonel qui organisait des dîners le dimanche avec des amis pilotes. Et c'est sur la nappe blanche des dimanches que je suis tombé dans le chaudron des ovnis, parce que ces militaires et ces civils, ces pilotes civils et militaires, parlaient de choses qui étaient d'un ennui putride pour l'enfant que j'étais. Ça parlait de quoi? Tu peux imaginer. L'Indochine, l'Algérie, l'armement, je m'ennuyais à périr. Mais quand le vin sans doute était propice aux confidences et quand la chair était goûtue, les amis pilotes racontaient des rencontres absolument incroyables qu'ils avaient vécues dans leur couloir de vol. C'était généralement à l'époque des objets en forme d'ellipse, plats, des soucoupes. Et voilà, donc je tendais une oreille gourmande. Et ça a été pour moi, tu sais Mike, ça a été pour moi... C'était pas facile de vivre dans un tel environnement. C'était pour moi la porte ouverte vers un ailleurs, un enchantement comme ça. Et...
Tu t'évadais avec ça?
Je me suis évadé, absolument. Je m'enfuyais vers le ciel, voilà. Et c'est un sujet qui m'a toujours... C'est-à-dire, avec mon papa, qui était un homme extrêmement pragmatique, sur ce sujet, on avait un échange extrêmement sérieux. Et puis quand il nous a quittés, en 96, mon papa est parti de l'autre côté des fleurs. Et j'ai eu envie de lui rendre un hommage et c'est venu spontanément. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre sur ce sujet-là. Et en collaboration avec un journaliste qui s'appelle Yves Coupry. Et on a rencontré tous les grands acteurs, jusqu'au ministère de la Défense, là-haut. Et puis, plus on montait les échelons, et plus on nous ouvrait des dossiers, et plus ce qu'on apprenait était absolument incroyable.
Ouais, toi, t'as vu des dossiers État. Estampillé État, faut dire les choses. Hein.
Absolument, bien sûr.
Voilà,
bien sûr,
parce que moi, souvent, quand je te reçois, toi ou Mathias Leboeuf, par exemple, je remarque que, malgré que j'ai un public qui est plus... ce qu'on appelle complotiste, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est moins un sujet français qu'américain. Je sais pas si tu le remarques.
Oui, mais en même temps, il faut quand même, cocorico, dire que nous avons été les premiers, hein, nous avons été les fers de lance de l'histoire, parce qu'en 77, d'abord, Jean-Claude Bourret, magnifique journaliste,
Bien sûr,
qui est un ami,
bien sûr.
qui m'a fait le cadeau
Et qui a préfacé.
de son amitié, qui a préfacé ce livre. Jean-Claude avait réalisé une interview quand même de M. Gallet, qui était le ministre de la Défense de l'époque. Et suite à tout ça, en 77, a été créé en France un bureau au cœur du CNES qui s'appelle le GEIPAN et qui a été un bureau pour s'occuper de ces
Oui,
phénomènes.
parce que ça, il faut le dire,
Mais bien
ce sont
sûr,
les Français qui, les
nous avons été
premiers,
les
se sont
pionniers.
intéressés à la
Absolument.
question des ovnis.
Absolument, absolument. Tu parlais de complotisme, je ne sais pas si tu sais, mais bon, on va
Vas-y.
peut-être poser les choses là maintenant sur la table, c'est-à-dire que depuis 2021, le sujet a quitté, chaussée de feutre, hein, sans faire de bruit, ce casier foutraque du surnaturel, hein, parce que maintenant, c'est absolument reconnu officiellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le Pentagone,
Ben,
excuse du
Barack
peu.
Obama qui le dit.
Absolument, le
Barack Obama le
Pentagone,
dit.
on a la Navy. Et puis tu parlais de complotisme, dernièrement, la NASA, hein, l'agence spatiale nord-américaine, a déclaré qu'il fallait faire sortir absolument ce sujet du complotisme et du sensationnalisme, hein, et les traiter de façon scientifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à le phénomène existe. Croire ou non aux ovnis ne change rien à la réalité du phénomène, il existe. On s'interroge aujourd'hui sur sa nature intrinsèque. Que sont ces objets? Est-ce que c'est un belligérant, hein, une nation belliciste qui maîtrise une technologie absolument incroyable? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est interdimensionnel? Enfin, toutes les hypothèses sont sur la table, mais le phénomène est là. Oui, Barack Obama, sur CNN, a déclaré en 2021 qu'il y a effectivement dans nos ciels, hein, des engins dont on ne comprend ni le moyen de propulsion, ni la
Tu sais,
trajectoire.
j'ai beaucoup aimé ce livre OVNI et pop culture. Des rockstars, des personnalités les ont vus et témoignent. Parce que c'est vrai que tout ce qui est question d'OVNI est rentré aussi dans la pop culture, mais ces représentants de la pop culture les ont vus. Et c'est drôle parce qu'il y a des Français qui les ont vus.
Mais oui, bien sûr.
Nicoletta!
Oui, il y a plein de
Parce que je
Français.
crois que Nicoletta écoute Radio Courtoisie. En plus,
Ah,
je crois.
ben
Hein.
on lui fait un gros bisou.
Voilà, on salue Nicoletta parce que moi j'aime beaucoup
Mais
Nicoletta.
oui,
Elle est encore là et encore au top. Hein.
d'abord c'est une chanteuse magnifique, c'est une de nos plus belles voix françaises.
C'est vrai.
Nicoletta, c'est une chanteuse absolument stratosphérique, magnifique, cosmique. Et puis c'est une femme délicieuse, c'est une
Et puis tu as pu
artiste.
la voir.
Oui,
Elle t'a parlé justement de son
bien sûr, mais
expérience.
bien sûr, nous avons échangé, je tendais une oreille gourmande et elle m'a raconté son observation. C'est une observation qui l'a bouleversée.
Ben justement, comment elle l'a fait? Enfin, c'est-à-dire que est-ce qu'elle avait déjà raconté cette histoire?
Elle avait raconté. Alors, moi, je savais que Nicoletta avait vu quelque chose d'incroyable, un de ces mystérieux objets célestes, parce que j'étais tombé sur une émission dans les archives de l'INA, une émission qui passait à midi, qui était animée par Daniel Gilbert. Tu sais, c'était
D'accord.
la messe quotidienne de
C'était dans
Daniel
les
Gilbert.
70.
Oui, les années
D'accord.
70. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que le sujet de cette émission, c'était les ovnis. Daniel Gilbert avait demandé à Nicoletta, mais je sais que tu as vu quelque chose. Et Nicoletta avait un peu botté en touche en
Oui,
disant,
elle avait peur à l'époque,
elle avait
c'était pas, ça
très
faisait pas
peur.
trop, quoi.
Elle avait peur en touche en disant, bah, voyez, tu vois, l'artiste qui était à côté de moi, en tout cas, n'est pas un extraterrestre, et c'était Serge Gainsbourg à l'époque.
D'accord.
Et
Bon, on aurait pu le croire, hein, quand on le voyait.
oui, c'est absolument. Effectivement, elle avait vu, mais elle m'a confié qu'elle ne voulait pas en parler parce qu'elle avait peur d'être prise pour une
Et qu'est-ce
perchée,
qui a
pour une
fait que
folle.
là, elle s'est mise à parler justement?
Parce que je pense que, si tu veux, ça s'est décontracté quand même. Et puis quand je lui ai dit que j'avais récupéré plein de témoignages, les témoignages de Bowie, de John Lennon, de Nina Hagen, de Elvis Presley a vu, etc. Donc elle s'est sentie en terre connue. Et voilà, elle s'est dit, c'est vrai que bon, si Bowie a parlé,
Bon, si Bowie a parlé, je peux le faire.
voilà, si Presley a parlé, parce que je sais que Nicoletta est une fan absolue de Elvis Presley, et elle a bien raison parce qu'elle a un goût sûr concernant la musique, donc voilà.
Donc elle les a vus. C'est, quand, écoutez, c'est quand même hallucinant.
C'est une parenté de luxe quand même. Voilà, entre Nina Hagen, Kate Bush,
ouais,
c'est absolument.
Enfin, ça fait. Enfin, c'est quand même pas n'importe quelle star. Voilà. Et donc du coup, là, c'est vraiment un inédit d'avoir ce témoignage
de
Nicoletta. Et puis, alors Michel Morgan. Alors là. J'en suis pas revenu. Michel Morgan. Et en plus, quelle histoire de Michel Morgan.
Alors, Michel Morgan, c'est en 54.
Les plus beaux yeux.
Les plus beaux yeux du monde.
Voilà. Oui. Faut dire la chose.
Avec ceux de Marie Laforêt, quand même.
Ah oui, avec ceux de Marie Laforêt. Qui est plus beau, Marie Laforêt ou Michel Morgan? Je sais pas. Marie Laforêt,
je pense. Non, je suis pas objectif parce que Marie a été une amie. J'ai vécu une grande amitié avec Marie. Et elle est dans le livre. Parce que Marie a chanté une chanson qui s'appelle L'homme de l'espace. Et
oui, c'est vrai.
Elle me faisait rire en me disant, tu sais, je sais que tu t'intéresses au sujet, mais moi j'ai chanté une chanson sur un extraterrestre. Mais les bandes avaient été perdues. On a retrouvé ces bandes dernièrement, après le décès de Marie. Et effectivement, elle a chanté une chanson sur un extraterrestre. Voilà, donc oui, pour moi, les plus beaux yeux du monde sont ceux de Marie. Oui. Elle me manque beaucoup.
Très très grande dame. D'ailleurs, toute cette génération, malheureusement, magnifique, est partie avec Brigitte Bardot, la dernière.
Ah, Brigitte, alors, j'ai le cœur cassé. Vraiment cassé. Moi, je suis provençal. J'ai grandi en Provence. J'ai passé plein de temps à Saint-Tropez. J'apercevais Brigitte magnifique. Et puis, son combat pour les animaux est quelque chose qui est tellement cher à mon cœur. J'ai le cœur cassé de la mort de Bardot.
Bon, revenons à Michel Morgan.
Michel Morgan, 1954, elle rentre chez elle et elle aperçoit, sur l'esplanade des Invalides, elle aperçoit deux objets dans le ciel. 54, ça a été ce qu'on a appelé une vague. C'est-à-dire, en 54, la France a été survolée par des objets de façon un peu massive. Et Michel Morgan est resté, ça l'a absolument bouleversé. Elle a témoigné, on s'est beaucoup moqué d'elle, mais jusqu'au dernier moment...
Elle a témoigné quand ?
Comment ?
Elle a témoigné dès 54 ?
Ah oui, dès 54, absolument, en disant, j'ai vu ces soucoupes volantes dont tout le monde parle. Parce que, Mike, si tu prends la presse de 54 entre octobre et décembre, les ovnis occupent toutes les unes des magazines, des quotidiens et des mensuels. C'est absolument incroyable. Donc, Michel Morgan dit, ces objets dont on parle, je les ai vus.
C'est-à-dire que le français de 54... Comme il a été abreuvé par cela,
absolument.
Mais plus, on va dire, sceptique.
Le français de 54 va découvrir le sujet des soucoupes volantes et des martiens. D'ailleurs, en fouillant dans les archives de l'INA, le premier micro-trottoir effectué par l'ORTF, le tout premier, c'est un jeune journaliste sémillant qui va sur le trottoir comme tu le fais si bien, avec son micro, et qui demande aux gens, est-ce que vous croyez aux soucoupes volantes?
Et qu'est-ce qu'ils répondent, les gens?
C'est génial. C'est jubilatoire. Alors, ils sont quand même, ils sont très intéressés. Alors bon, il y a toujours évidemment les sceptiques, les doutants. Et puis, en général, ils sont très intéressés par le sujet. Voilà, ils veulent savoir.
Moi, je conseille aux gens de regarder ces vidéos de l'INA.
Ah, c'est magnifique.
Des années d'avant, parce qu'on sent quand même un différentiel des Français entre 54 et aujourd'hui, quoi.
C'est un magnifique voyage dans le temps, et il y avait une sorte de, je le dis pas de façon péjorative, bien au contraire, il y avait une sorte de naïveté, et je pense que cette naïveté était très saine. Je dis tout le temps, d'ailleurs, pour aborder ce sujet, il faut garder son âme d'enfant intacte et son pouvoir d'émerveillement intact. Voilà.
Mais ce qu'il y avait surtout, c'est le différentiel de phrasé.
Absolument.
Alors là, on a l'impression de revenir à l'ancien régime.
Ah, on s'exprimait.
Avec quelque chose, hein.
Absolument. C'était... je crois que c'était une vertu nécessaire à l'époque. Enfin, c'était présenté comme une vertu nécessaire de bien s'exprimer, oui.
Donc Michel Morgan les a vus.
Français, on en a beaucoup de Français qui ont vu Daricole.
On va parler de Daricole. Mais Michel Morgan, lorsqu'elle l'annonce, quelle est la réaction?
Beaucoup de rire. Ce rire que l'on connaît bien, c'est-à-dire que il faut rendre grâce, tu sais, Mike. Il faut rendre grâce aussi à ces personnes qui ont osé témoigner parce qu'ils l'ont payé très cher. Le statut de témoin d'OVNI...
C'est-à-dire que Michel Morgan elle a continué à tourner.
Elle a continué à tourner. Mais je peux te dire que la riposte a été rude et sévère. Hein.
C'est-à-dire que
tout le monde s'est moqué d'elle. les journalistes disaient il ne faut surtout pas qu'elle joue Jeanne d'Arc, puisque maintenant elle entend des voix, elle voit des choses.
Bah justement, il faut entendre des voix.
Ben oui, mais bon, c'était un petit peu. Elle a été un peu chahutée, on va dire. Mais ceci dit, elle a. Voilà, elle a persévéré dans ses propos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si la presse à l'époque...
Elle était très courageuse, Michèle Morgan.
Extrêmement courageuse.
Très, très courageuse.
Oui.
Hein.
Même si la presse s'est un peu moquée, il faut savoir que son témoignage a atterri dans les dossiers américains de la base de Wright-Patterson.
D'accord.
Les Américains ont trouvé, ont trouvé ça extrêmement intéressant. Et ça a été archivé dans les dossiers secrets de la de l'Air Force américaine.
Alors tiens, j'ai un monsieur qui a appelé et il nous dit « Il me semble que les gens de gauche ont tendance à mépriser le sujet ». Alors ça, je sais pas. Je sais pas. Si politiquement, est-ce qu'il y a une tendance à croire ou pas croire ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que aux États-Unis, à l'heure actuelle, ouais. Le sujet des ovnis est un bras de force entre les républicains et les démocrates.
C'est-à-dire ?
Ce sont beaucoup plus les républicains qui se battent pour une divulgation. Les démocrates ont un peu freiné pendant des années.
Alors j'ai un monsieur, il n'est pas content. Il me dit les grands problèmes avec monsieur Jean-Claude Bourret. Il prétend avoir dîné avec des extraterrestres.
Non, il n'a jamais prétendu avoir dîné, en fait.
Voilà. Donc voilà, il y a du populaire là, qui rentre dans la tête des gens. Ils se disent, oh, bah, tiens, une communication, et non.
Non, Jean-Claude, il raconte une anecdote absolument incroyable.
Bah,
il raconte qu'un jour, lors d'une interview, il devait interviewer une personnalité, et soudain... Il a ressenti une sorte d'emprise, comme une espèce de pieuvre qui a pris son esprit, ouais. Et il s'est rendu compte que cette personne, visiblement, n'était pas d'ici. Mais il ne sait pas qui est cette personne parce qu'il dit que...
C'est une mauvaise interprétation, cher monsieur. Et puis, il croit également que l'on a marché sur la Lune. Alors, monsieur ne croit pas qu'on a marché sur la Lune.
Ah. ça, c'est un autre débat. C'est un grand débat.
C'est un autre débat.
Je sais qu'il y a les convaincus et les sceptiques. Moi, je reste dans l'ouvert, c'est-à-dire j'essaie de j'engrange les hypothèses et puis je n'ai pas pour l'instant de certitude.
Alors Michèle Morgan qui a vu les extraterrestres, parce que on savait qu'à l'époque il y avait énormément d'expériences sur des armes nouvelles, etc. Oui. Est-ce que elle aurait pu confondre avec ça ou pas?
C'est une période quand même qui est profuse en observations. Hein, 54, je t'expliquais qu'entre octobre et fin novembre, on va voir, et on voit toujours le même genre de vaisseaux étranges, hein, cette espèce de soucoupe, et de petits personnages. Parce que c'est ce qu'on appelle des RR3, des rencontres rapprochées du troisième type. Est-ce que tu connais ces définitions?
Vas-y, non. Dis-la nous pour les auditeurs.
Ça, c'est une grille de lecture qui a été proposée par Alan Hynek, hein, qui est le père de l'ufologie contemporaine, et par Jacques Vallée. Jacques Vallée qui est sans doute l'ufologue le plus célèbre au monde aujourd'hui, qui a été incarné par François Truffaut dans le film de Spielberg. Et donc, à l'époque, Hynek, qui travaillait avec Jacques Vallée, avait proposé une lecture du phénomène, donc rencontre du premier type, c'est-à-dire lorsqu'on voit une lumière passer dans le ciel, rencontre du deuxième type, lorsque cet objet a une incidence sur notre environnement, c'est-à-dire laisse des traces au sol, ou sur les témoins, hein, certains présentaient des brûlures, hein, des effets secondaires des fois dommageables. Rencontre du troisième type, lorsqu'on voit un objet, à l'intérieur de cet objet ou à côté de cet objet, il y a des créatures, ce qu'on appelle des ufonautes. Voilà.
Egon Kragel, OVNI et pop culture, des rockstars, des personnalités les ont vus et témoignent vraiment passionnants aux éditions Guy Trédaniel, que je salue aussi. Voilà des éditeurs qui prennent des risques. Hein. Guy Trédaniel, Max Milo aussi, où tu écris.
Oui, oui,
et
absolument.
D'autres.
J'ai fait trois livres chez Max Milo.
Voilà, des personnalités qu'on reçoit, enfin, des éditions que je reçois assez souvent et qui prennent vraiment des risques que j'aime beaucoup. D'ailleurs, tu as parlé de Darry Cole. Darry Cole, moi, j'ai des souvenirs avec Darry Cole parce qu'il se trouve que, pas très loin d'ici, le bois de Boulogne, Darry Cole jouait à la pétanque. Mmh. Et il jouait de l'argent à la pétanque.
Ouais. Oui,
et il était très bon bouliste. Hein.
Ah, génial.
Très, très bon bouliste. Du côté du Petit Lac. du côté du petit lac, tu as tous les, enfin à l'époque, maintenant je sais pas s'il y en a encore, tu avais tous les grands joueurs de pétanque et Darry Cole en été tous les jours.
Tu sais qu'il avait un talent fou. C'était un homme.
C'est vrai. Il jouait aussi, il était très joueur.
C'était un pianiste magnifique. Et d'ailleurs, il avait commencé sa carrière en jouant dans les cabarets. Et on l'a vu à la télé au début, accompagné par exemple Charles Aznavour.
C'est vrai. Hein,
Isabelle Aubray, Catherine Sauvage. Et puis, c'est entre deux gammes hein, qu'il a développé son personnage de zozoteur un peu perché. Et c'est avec ce personnage qu'il a eu un succès, qu'il est devenu un des comiques préférés des Français. Et il a fait une observation qui l'a absolument bouleversé. Absolument bouleversé.
Raconte-nous, tiens.
Il accompagnait une jeune chanteuse qui s'appelait Souris à l'époque.
D'accord.
Et qui devait faire un concert. Et c'était dans le sud de la France à l'époque. Et alors qu'ils roulaient paisiblement, ils ont été confrontés vraiment à ce qu'on appelle une soucoupe, un objet en forme d'ellipse énorme au-dessus de la route. Et il a été absolument sidéré. Dans la voiture, il y avait la maman de cette petite chanteuse, et la maman avait tellement peur qu'elle s'est évanouie.
Ça veut dire que lorsque le cinéma reprend les codes avec la soucoupe, le cinéma n'a pas tort ?
Bien sûr. Bien sûr. Bah, de toute façon, le cinéma a toujours aussi suivi l'actualité, d'une certaine façon. On a des exemples flagrants hein, dans l'histoire du cinéma. Bien sûr, il y a une porosité totale entre l'actualité et les scénarii écrits. Voilà.
Alors, je voulais poser cette question parce que j'ai reçu, il y a quelques temps de cela, un auteur qui s'appelle Luc Marie, qui est à BTLV pour le coup.
Absolument.
Et lui dit que les extraterrestres, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont en fait des êtres humains qui viennent du futur. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette thèse ?
Ce sont des théories courantes aujourd'hui, c'est-à-dire de toute façon, bon, il faut être, allez, on va être pragmatique. Pour l'instant, nous tâtonnons, hein, on ne sait pas grand-chose. Donc, toutes les hypothèses aujourd'hui sont recevables et on les pose sur la table, c'est-à-dire que ce phénomène est soit extraterrestre, c'est-à-dire que ce seraient des créatures exogènes qui viennent d'ailleurs. C'était d'ailleurs une hypothèse soutenue par l'armée française, hein, par le ministère de la Défense française. C'est soit aujourd'hui, on pourrait dire, interdimensionnel. On sait que la mécanique quantique a tendance à nous expliquer que nous ne vivons pas dans un univers, mais un multivers. Hein. Selon les avancées quantiques, on vivrait visiblement dans 11 dimensions, 11 branes. Donc il y aura peut-être des énergies, des formes de vie qui peuvent passer d'une brane à l'autre. Ça peut être absolument nous-mêmes hein, qui venons du futur et qui maîtrisons le voyage dans le temps, etc. Je pense que toutes les hypothèses sont à mettre sur la table. Et, en tout cas, moi, je reste absolument dans l'ouvert et je n'en refuse aucune, puisque de toute façon, je ne sais pas. Il faut rester humble par rapport à ça. Je pense qu'il faut se méfier des gens qui nous disent qu'ils savent aujourd'hui, parce que si vraiment on savait...
Est-ce qu'on peut savoir à terme, à court terme ?
Je pense que le sujet, tu sais, Mike, est tellement protéiforme et tellement complexe. Mais tellement complexe. Je me demande même si nous sommes capables, si nous sommes capés pour entrevoir et appréhender ce sujet. Lors de mes enquêtes, j'avais rencontré un astrophysicien, je me souviens, et ça m'avait beaucoup marqué, qui m'avait demandé, mais Egon, est-ce que vous avez un chien ? Il dit oui, à l'époque j'avais un toutou, j'avais un joli coton de Tuléar, magnifique. Et il me disait, est-ce que votre chien réagit, par exemple, en regardant la télé ? J'ai dit oui, si je regarde un film ou un documentaire et qu'il y a un chien qui aboie, mon chien se lève, le poil hérissé. Et il me dit, mais qu'est-ce que votre chien peut savoir d'un tube cathodique ? Qu'est-ce que votre chien peut savoir d'un animateur qui a la télé, qui a une carte de crédit dans sa poche ? Qu'est-ce qu'un chien peut savoir de tout ça, de caméra ? Et je pense que j'ai trouvé que la comparaison était très intéressante, c'est-à-dire que est-ce que nous sommes capables d'appréhender vraiment de façon pragmatique ? Tu sais, Mike, c'est la première question philosophique qu'on se pose. Enfin, toute l'histoire de la philosophie, hein, le début de la philosophie, c'est quoi ? C'est est-ce que nos sens sont capables de nous renseigner sur le réel qui nous entoure ? Moi, je pense que nous sommes un peu limités quand même.
C'est vrai. Mais c'est totalement vrai. Hein. Certains même se disent que nous vivons un grand rêve.
Mais absolument. Pour en revenir à ces astrophysiciens, un second astrophysicien me disait, mais tu sais, on ne sait pas grand-chose. Il me dit, on connaît, allez, on appréhende 3% de l'univers, la matière noire,
3%.
L'énergie noire, seulement 3%. On ne connaît pas grand-chose. Les océans, tu sais qu'on a exploré 5% des océans, Mike.
C'est vrai que ça fait peu. Hein.
On ne sait pas grand-chose.
Mais c'est vrai, moi j'ai reçu, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant d'aller au-delà de ce que l'éducation nationale peut nous dire. J'ai reçu des gens, des mathématiciens qui m'ont expliqué un peu les pyramides et qui m'ont dit que ce ne sont pas les Égyptiens qui les ont créés, qui les ont érigés, mais qui étaient déjà là il y a 15 000 ans.
Oui,
Tu vois,
bien sûr, bien sûr.
on a eu 5 extinctions quand même dans cette planète. Est-ce que
Absolument.
l'être humain a été présent dans une des 5 extinctions? C'est possible aussi, on n'en sait rien en fait.
On ne sait pas grand-chose. J'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Sud et je suis fasciné par les cultures amérindiennes, précolombiennes. Et par exemple, concernant les Mayas, on ne sait rien des Mayas. Il y a des centaines d'ouvrages sur les Mayas, il y a plein de magazines sur les Mayas, mais nous supputons, on ne sait pas grand-chose. Les Incas, on sait mieux parce que, y a eu une confrontation entre les conquistadors et les Incas, mais les Mayas, on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose. On ne sait pas
Mais
grand-chose.
parce que, y a une question qu'il faut quand même se poser, c'est comment se fait-il que des peuples qui ne se sont jamais rencontrés ont érigé le même type de monument, les Égyptiens et les Mayas, avec sorte de pyramide?
Absolument.
Voilà. Comment, par exemple, tiens, les têtes de l'île de Pâques sont-elles arrivées? Il faut se
Absolument.
poser la question,
Oui.
quand même.
Ouais.
Les menhirs. Les menhirs, c'est des. C'est gigantesque.
Absolument.
Comment se fait-il aussi que des peuples qui ne se sont jamais rencontrés ont tous les peuples qui ne se sont jamais rencontrés ont cru à des forces supérieures?
Alors je vais te raconter deux petites anecdotes. Quand j'étais en
Vas-y.
Amérique du Sud, je suis allé en Bolivie et atterrir à La Paz, on est monté jusqu'au Titicaca. Bon, c'est très très haut, c'est absolument somptueux. Et j'ai assisté à un concert de quenas, qui sont les flûtes de Pan, comme ça, par les Indiens de l'Altiplano, hein, mes frères indiens de l'Altiplano. Et à la fin de ce concert, je leur ai demandé, moi un peu monomaniaque, je leur ai dit, mais est-ce que vous voyez des fois des lumières dans le ciel? Et ils m'ont dit, oh, français, d'où tu viens? T'as vécu où? Des lumières, on en voit tout le temps. Les lumières, elles descendent du ciel, elles nous survolent et elles plongent dans le Titicaca. Pour eux, ce sont des choses complètement naturelles et
Qu'est-ce qu'ils ont conclu, eux?
quotidiennes. Ah, pour eux, ce sont leurs frères des étoiles. C'est le peuple des étoiles. Los hermanos de las estrellas. Hein? Et quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont raconté. Alors, on était en Bolivie, tu vois, t'as Tiwanaku, hein, la porte du soleil, absolument incroyable. Et ils me disent, bah, en fait, c'est Viracocha. C'est Viracocha qui est venu du ciel un jour et qui nous a apporté tout ça. Et Viracocha, il nous a enseigné l'agriculture, l'architecture, etc. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que si on se penche sur toutes les cosmogonies, sur toutes les cultures autour de la planète, on se rend compte souvent que la connaissance vient du ciel. Ce sont des créatures qui viennent du ciel. Chez nous, chrétiens, Dieu et les anges, hein, ça vient du ciel,
C'est vrai.
partout. En Inde, ce sont les dieux qui viennent sur des plateaux de métal qu'on appelle les vimanas, c'est très intéressant. Chez les Amérindiens, au nord, c'est les Star People, c'est le peuple des étoiles. Dans le sud, c'est Los Hermanos de las Estrellas, les frères des étoiles. Enfin, nous avons ça en commun. On a en commun l'être humain, on a en commun cette histoire, hein, qui vient du ciel. Et il y a quelque chose qui vient du ciel. D'ailleurs, bon, c'est le sujet de ce livre. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir à quel point ce phénomène, dont on dit qu'il n'existe pas, qu'il est ridicule, a impacté notre culture. Quand on voit le cinéma, les chansons, quand tu vois tous ces artistes qui ont
Mais c'est
vu,
quelque chose que
qui en
nous,
parlent.
en Occident, on a abandonné parce qu'on est rentré dans la société du rationnel.
Mais en même temps, Max, si je peux me permettre, on a soi-disant abandonné ça, mais l'invasion est en marche. On vit une invasion. Je regardais autour de moi, dans les vitrines, les jouets d'enfants, tu as des soucoupes. Tu allumes la télé, tu as des publicités, tu as des extraterrestres pour nous vendre des pâtes, pour nous vendre des voitures.
C'est vrai, en plus.
Il y en a partout, les t-shirts, les posters. Il y a une invasion. C'est-à-dire à quel point ce sujet qui semble dérisoire et ridicule pour plein de gens a impacté notre culture.
Est-ce que justement les Américains ont utilisé les intéressent pour de la propagande? Je m'explique. Les Américains qui veulent être l'empire mondial, en gros, dans son cinéma, on a les Américains leaders du monde, en gros. Tu les vois avec leur drapeau, et puis derrière, t'as, je sais pas moi, les Chinois, les Russes,
absolument,
les Européens,
ouais,
etc.
Ouais.
Face à une menace extérieure qui n'est plus humaine. En gros, c'est les êtres humains, avec un leadership américain, contre les êtres venus d'ailleurs.
Oui, ah, ça a évolué, hein, parce que si on regarde toute l'évolution du cinéma, dans les années 70... Les Américains ont une envie de contact. Hein. Rencontre du troisième type, c'est vraiment l'envie de contact. E.T., c'est un extraterrestre absolument adorable. Je dirais presque un extraterrestre de maternelle. Hein. C'est pas péjoratif, mais t'as envie de le choyer, de le prendre dans tes bras. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le film. Hein. Rencontre du troisième type, ils sont magnifiques, quoi. Ces petits gris. D'ailleurs, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de s'embarquer dans le vaisseau et de partir faire une balade dans les étoiles. Et puis, dans les années 90, ça se corse.
À partir d'Independence Day.
Oui, absolument. Absolument. Ça commence à se corser. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, si tu veux, c'est symbolique de la défiance qu'ont les citoyens par rapport aux hautes instances. C'est-à-dire qu'on commence à parler de complotisme, on nous cache plein de choses. C'est une des patentes idées, c'est toute la série X-Files. Hein, on nous cache quelque chose, là.
Bah justement, le fameux complotisme, est-ce qu'il ne vient pas de X-Files?
Moi, je crois qu'il vient simplement de la défiance des citoyens qui se sont rendus compte, au bout d'un moment,
mais
qu'on nous racontait beaucoup de salades.
X-Files, alors, j'imagine que ça vient peut-être de la mort de Kennedy, mais en tout cas, en France, X-Files, c'est quand même une série qui a été énormément vu. Moi-même, j'achetais des magazines X-Files. Je me rappelle de ça.
C'est iconique.
Et on nous disait ils savent, ils nous cachent.
Oui, c'est ça. Oui.
Et j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après cette série.
Tu as raison, absolument raison. Oui, bien sûr. Ça, c'est une série qui a impacté profondément aussi notre société. Notre société, elle n'est pas qu'impactée par des décisions politiques, hélas, mais elle est aussi impactée par la culture. C'est pour ça que je pense que le rôle de la pop culture est essentiel.
Mais moi, je vais te dire une chose, cher Egon, c'est que nous sommes influencés et influençables par le cinéma, par les séries. On a les images de faits historiques que l'on retranscrira sur un papier ou, je sais pas, dans un dîner en ville, parce que l'on a vu un film, la Révolution française, par exemple. C'est parce qu'on a vu les films, Danton, machin, qu'on va retranscrire la Révolution française, alors que c'est pas passé comme ça. L'esclavage, la colonisation, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, on la verra de telle manière parce que on a vu le cinéma américain, les John Wayne et compagnie. Voilà.
Oui. C'est parfois un narratif qui devient officiel alors qu'à la base, il y a des biais. Mais oui, bien sûr.
On a une vision des intérêts de ce à quoi ils ressemblent à cause du cinéma.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a des choses qui sont passées dans notre culture qu'on accepte et qui sont des erreurs. Par exemple, premier détail, dans les péplums, quand on voit l'empereur romain et les gladiateurs dans machin qui décide de condamner les gladiateurs, qui fait ça avec son pouce, et c'est rentré dans la culture tout le monde. Alors que les Romains n'ont jamais fait ça. C'est vraiment une invention du cinéma.
Ah oui, mais c'est vrai que je dis que contrairement à ce qu'on pense, le cinéma, la télé, les séries sont beaucoup plus puissants dans l'influence de l'esprit des gens qu'on ne le pense.
Mais moi je pense qu'il y a un pas de deux entre les agences de renseignement, la politique et le cinéma. Je pense pas que Hollywood soit.
C'est la CIA.
Bien sûr, mais c'est évident. Je pense pas que. Je ne pense pas une seconde que Hollywood est indépendant et fait ce qu'il veut. Je pense pas. D'ailleurs, on a des preuves. On a des preuves.
On le voit, par exemple, avec les guerres en Irak, des choses comme ça, ou le Vietnam.
On sait qu'ils surveillent, on sait que... voilà, on sait qu'ils instillent...
Et ils veulent que les gens pensent de telle et telle manière.
Bien sûr, mais le cinéma a un rôle prépondérant, un rôle essentiel dans notre façon d'aborder notre réalité, vraiment.
Alors, un monsieur nous appelle et nous dit « Reagan dit à l'ONU, un jour vous serez confronté à des forces venues d'ailleurs. D'ailleurs, l'affaire Roswell avait été la preuve que les Américains avaient accès à de nouvelles technologies déjà en œuvre aujourd'hui. »
Alors, ce monsieur a raison parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ronald Reagan était un passionné d'OVNI. Reagan a fait deux observations. Une première observation dans les années 60, et puis une seconde observation en 74. Il était alors gouverneur de Californie, et il était dans un petit avion privé, avec deux agents de sécurité, et puis son pilote. Et cet avion a été suivi par un objet complètement, pas du tout conventionnel, hein, qui se déplaçait de façon erratique, et qui a suivi l'avion, et qui changeait de forme. En plus, qui était métamorphe. Et puis, Reagan raconte qu'à un moment donné, l'objet s'est arrêté et est monté verticalement dans le ciel à une vitesse vertigineuse, ce qui était impensable en 1974. Hein. Donc, Ronald Reagan était passionné par le sujet. Suite à cette observation, il avait déclaré qu'avec Nancy Reagan, son épouse, ils avaient acheté des tas de livres. Et il se passionnait pour le sujet. Et il y a une très belle anecdote qui a été révélée par Spielberg lui-même. Spielberg, en 1982, a été invité par Reagan, à l'époque, président, hein, pour projeter E.T. à la Maison-Blanche. Je ne sais pas si tu imagines, c'était une soirée... Reagan dit que c'était une soirée mémorable. Il y avait des astronautes qui étaient invités. Enfin, il n'y avait que du beau monde. Et donc, ils ont projeté E.T. Pour le couple présidentiel. Il paraît que Nancy a copieusement pleuré. Et à la fin de cette projection, Reagan s'est levé, a remercié Spielberg en lui disant « Merci d'avoir amené E.T. à la Maison-Blanche ». Et puis il a regardé les convives et puis, en leur disant « Vous savez, je sais qu'il y en a parmi vous qui savent que tout ce qu'il y avait sur cet écran est absolument authentique ».
Voilà l'histoire. Il a dit ça.
Oui, voilà l'histoire. Et cette anecdote, je la tiens de Spielberg.
Lui-même,
absolument.
T'as pu le voir ?
Non, j'avais récupéré une interview qu'il avait donnée et donc j'ai pu. On m'a offert la bande.
Il faut dire les choses. Dans ce livre, on peut dire que c'est inédit. Tu as des choses que les gens n'ont pas pu lire ou voir avant.
Ah oui, mais il y a plusieurs anecdotes, il y a plusieurs témoignages que j'ai récupérés moi-même. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bowie plusieurs fois. Bowie, c'est quelqu'un qui a changé ma vie. Nina Hagen m'a raconté son expérience.
Que des grands, là tu parles, tu cites que des grands.
Oui, absolument. Bah, oui, mais
qui n'existe plus. Ça n'existe plus d'ailleurs des gens de ce niveau.
Non, c'est fini.
Il y a plus David Bowie aujourd'hui, hein.
Ah non, non. Mais Bowie, c'est un cas tellement à part. Bowie. J'ai écouté une émission de la BBC encore dernièrement et qui était un hommage parce que en fait les 10 ans, hein, les 10 ans ouais. De sa disparition.
Déjà 10 ans.
Oui, et il y avait des tas d'artistes qui étaient invités. Il y avait Bono de U2, il y avait Robbie Williams, il y avait plein de gens et ils étaient tous d'accord pour dire que il y avait eu deux révolutions musicales en Angleterre. Ces révolutions, ont été d'abord les Beatles et puis ensuite David Bowie.
Ouais, et puis ce personnage un peu androgyne. D'ailleurs, je me demande si lui, il n'a pas instillé aussi ça dans la société.
Bah d'abord, Bowie a incarné au cinéma l'extraterrestre le plus stylé, le plus dandy, le plus magnifique au monde. Bowie a incarné en 1975 et 76 un extraterrestre dans un film que je vous recommande, mais vraiment qui pour moi est sans doute le plus beau film sur le sujet. Un film qui s'appelle « L'homme qui venait d'ailleurs ». Un film de Nicolas Roeg. Nicolas Roeg avait travaillé déjà avec Mick Jagger dans Performance. Et il voulait adapter un roman de Walter Tavis, donc qui s'appelait « The Man Who Fell to Earth »,« L'homme qui venait d'ailleurs ». Et il voulait un personnage très étrange. Et il avait pensé à Peter O'Toole. Et puis, il avait assisté à un documentaire en l'honneur de Bowie. Et Bowie était très frêle à l'époque, très androgyne. Et il s'était dit, mais j'ai trouvé mon extraterrestre. Et Bowie est magnifique dans ce film. Mais c'est un film, c'est une fable. C'est une fable un peu désenchantée, mais c'est une fable philosophique réellement sur notre vivre ensemble, sur notre rapport à l'altérité radicale, à l'aliénation. Je vous recommande ce film. Ce film était très en avance et Bowie est au sommet de sa beauté, de son étrangeté et absolument somptueux.
Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, les bobinots.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Continuez à soutenir Radio Courtoisie pour qu'on puisse avoir des émissions inédites, comme avec Egon Gragel. Si nous avions des annonceurs, des publicités, des marques de lave-linge, de bagnole, ce que vous voulez, eh ben nous n'aurions pas ce type d'émission parce que ils voudraient, ces gens-là, qu'on parle de choses qui puissent permettre de vendre leurs produits. Donc vous êtes les patrons, vous nous soutenez et vous avez constamment de l'exclusivité. D'ailleurs, tiens, c'est bizarre, mais on ne parle plus dans les grands médias des extraterrestres.
En même temps, comme je te disais, en tout cas, ces grands patrons ont souvent utilisé des soucoupes volantes et des extraterrestres.
Ils les ont utilisés, mais en tout cas,
pour vendre de la lessive.
On n'en parle plus. Il y a plus d'émissions avec Jacques Pradel qui va disséquer Roswell.
Non, mais.
Ou des trucs de l'étrange. Tout ce qui est étrange, tiens. Oui, et je fais un petit coucou à Bob. Oui. Tout ce qui est étrange, on n'en parle plus.
Non,
t'as pas remarqué?
Oui, absolument.
On est de plus en plus dans une forme de rationalité. On a des experts plateaux qui nous expliquent que tout est explicable, la science, etc. J'aime la science, je crois à la science. Il n'y a que ça.
Mike, on a assisté quand même à un glissement un peu inquiétant. C'est-à-dire, moi j'ai vu depuis l'ère pré-Covid, on évite absolument le débat. Aujourd'hui, c'est un peu la pensée unique. Voilà, c'est
clairement.
La liberté d'expression est extrêmement menacée. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à toutes ces personnalités. Jimmy Carter, Ronald Reagan, qui sont des présidents.
D'ailleurs,
Mohamed Ali.
Ben oui, mais d'ailleurs, on a des personnalités d'antan qui, pour la plupart, sont décédées.
Absolument.
Dans ce livre, OVNI, Pop Culture, des rockstars, des personnalités les ont vues et témoignent. Nous n'avons pas des contemporains.
Alors, on a quelques stars américaines. Hein. On a Demi Lovato, par exemple, ou Miley Cyrus.
Pas de Français en Amérique. Parce qu'en Amérique, ils se permettent des choses. Mais parce que, moi, par exemple, j'ai vu un sondage, 40% des Américains se déclarent officiellement, alors, je ne mets pas peut-être les ovnis, ce n'est pas du complotisme, en tout cas, eux se déclarent officiellement complotiste, 40%, c'est-à-dire presque de la moitié. Oui. Mais jamais un sondage pareil, alors que dans les dîners en ville, les gens, entre personnes autorisées, se disent des choses parfois folles, mais jamais officiellement, ils ne l'avoueront. Ben, on a un différentiel, quoi.
En tout cas, pour moi, complotiste, ça veut dire éveillé, hein, pardon, mais généralement, les complotistes ont raison plusieurs mois avant.
Plusieurs années avant.
Donc, moi, si on me traite de complotiste, je le porterai comme une décoration au revers de ma veste,
avec
fierté.
Il faut dire aussi une chose, on n'a pas de personnalité aujourd'hui comme Michel Morgan ou Darry Cole.
Non.
Ça, c'est les choses, hein.
Bah, on parlait, oui, c'est...
Michel Morgan, quand même star, c'était des stars. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Quand on regarde ceux qui nous ont quittés, Belmondo, Delon, Michel Morgan, Brigitte Bardot, Daniel Darieux, c'était des stars. Même Chevalier à l'époque,
c'était des stars
mondiales.
Même avant, prends Michel Simon.
Michel Simon.
Prends Arletty. C'était des monstres, ce qu'on appelait des monstres sacrés, ça n'existe plus. Mais en même temps, c'est aussi l'évolution de la société. Pourquoi aussi, Mike? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le narcissisme des gens. Et aujourd'hui, tout le monde est une star. Tout le monde aujourd'hui peut se présenter sur les réseaux sociaux en disant voilà ce que je fais. À l'époque, il y avait deux chaînes de télévision, il y avait deux grandes radios, donc etc.
Mais t'imagines quand même que, tiens, t'as parlé d'Arletty, T'imagines que Arletty, à son procès, elle risquait gros quand même. Elle risquait gros. Hein. Ouais. Et elle va dire au juge, oui, oui. Je suis peut-être française, mais mon cul est international.
Oui, absolument.
Donc, qu'est-ce que quelqu'un fera un truc pareil aujourd'hui?
Magnifique, Arletty. Irremplaçable, Arletty. Magnifique. Et puis tellement en avance parce que extrêmement belle aujourd'hui quand on voit Arletty à l'époque, très moderne, extrêmement moderne.
Qui a vécu très longtemps d'ailleurs.
Ah, puis c'était...
Je crois qu'elle a dépassé 90 ans.
Oui, absolument. La pauvre, elle était non-voyante à la fin, elle avait des problèmes, mais extrêmement courageuse.
Très.
Extrêmement courageuse.
Non, mais moi je vais te dire, ces personnalités-là, nées avant-guerre, ça faut vraiment en préciser, début du siècle. Vraiment, elle a dégagé quelque chose. Que aujourd'hui, les millénials ou ma génération ne dégagent plus.
Bah, tu sais, il y avait aussi la provocation, faisait partie aussi du panorama médiatique. Je suis retombé sur une émission sur la peinture et sur Salvador Dali. C'était incroyable, les déclarations de Dali à l'époque. On peut pas imaginer aujourd'hui un personnage comme Dali venir dire à la télé ce qu'il disait à l'époque.
C'est vrai.
C'est impossible. En effet. Et même au niveau musique, le grand Jacques Brel, magnifique Brassens, le grand Georges Brassens. Tu te rends compte que des chansons de Brassens ou de Brel seraient censurées aujourd'hui à la radio?
Bon, Léo Ferré.
Léo, magnifique. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une amitié. Je ne vais pas pleurer en en parlant, mais avec une grande dame qui s'appelait Juliette Gréco. Juliette a été une amie très très chère. Et Juliette me racontait des tas de choses et j'étais extrêmement courageux. Juliette est quand même allée chanter au Chili devant Pinochet.
Elle a soutenu à l'époque son compagnon Miles Davis.
Magnifique, magnifique. Il y a une anecdote. Il faut que je te raconte une anecdote que Juliette m'a racontée. Juliette, à l'époque, chantait aux États-Unis. Elle avait une certaine notoriété aux États-Unis parce que Daryl Zanuck, le grand patron de la 20th Century Fox, était fou amoureux d'elle. Donc elle était partie chanter aux États-Unis et elle était au Waldorf Astoria, le super hôtel, et elle avait appelé Miles. En disant à Miles, écoute, viens dîner ce soir au Waldorf. Et Miles s'est pointé à 20h. Juliette avait réservé une table. Et Miles s'est pointé. Et il n'a pas pu rentrer au Waldorf. Alors, donc Juliette attendait, en disant, j'attends mon invité, il n'est pas là. Alors, elle a demandé à parler.
Il n'y avait pas de portable à l'époque, hein, donc elle ne peut pas appeler dehors en disant « oui, je suis là ».
Elle a demandé à parler au chef de rang, et le chef de rang a appelé le responsable qui est descendu en disant « écoutez, Madame Gréco, on est désolé, mais le monsieur que vous attendez ne peut pas rentrer dans l'hôtel ». Bon, ah bon, pourquoi ce monsieur? Parce que ce monsieur a la peau noire, il ne peut pas rentrer. Alors Juliette s'est levée, elle est allée... Elle s'est approchée du propriétaire, du grand boss de l'hôtel. Elle lui a dit, vous pouvez me donner votre main, s'il vous plaît?
Donc, la connaisse-toi. Vas-y, continue.
Elle a pris la main et elle a craché dans sa main, elle lui a refermé la main. Et elle a quitté l'hôtel.
Quel courage.
Et comme tu disais, Juliette est allée chanter au Chili devant Pinochet. Et elle m'a dit, j'avais sélectionné que mon répertoire antimilitariste.
Et Pinochet était content quand même de l'écouter.
Non, pas très content.
Ah bon? Ouais. Il comprenait?
Oui, absolument. Oui, parce qu'il y avait un traducteur.
D'accord. Italien.
Non, pas du tout content. Ils ont été raccompagnés. Ils ont eu très très peur en fait. Hein. Juliette m'avait confié. Elle m'a dit on a eu très très peur. Ils nous ont raccompagnés jusqu'à l'avion et ils avaient subtilisé nos passeports et on avait peur de ne pas pouvoir rentrer en France.
Mais il y avait en plus Juliette Gréco était une très belle femme. Catherine Deneuve avant, Mylène de Mongeau et d'autres. Il y a d'autres que
Marie Laforêt qui a commencé.
Marie Laforêt, Michel Morgan.
Oui,
c'était quelque chose. Hein.
Bardot qui a été quand même, pardon, mais la plus belle femme du monde.
Ah oui, c'était quand même quelque chose. Ah, cette époque-là, on a l'impression quand même d'être descendu quelques crans. Hein.
Un petit peu. Pas mal d'ailleurs.
Oui. Aujourd'hui, on a des filles de qui sont sur les réseaux sociaux.
Quand je pense,
et qui mettent des filtres.
Là, je vais balancer un coup de gueule quand même.
Balance.
Quand je pense qu'ils ont osé huer
au César.
César.
C'est une honte.
Alors qu'ils n'atteindront jamais. Jamais la beauté, ni le rayonnement de Bardot. Bardot a rayonné sur la planète entière.
Mais tu sais que j'ai
regardé... Quelle honte, mais quelle honte.
J'ai regardé les box-office mondiaux. Pardon, je veux dire... Pas les box-office, pardon, c'est pas français. Comment on pourrait dire ça en français, box-office?
Box-office... comment on pourrait dire ça?
Bon, le nombre de personnes, enfin les plus, enfin les films ayant le plus de succès dans le monde,
oui.
Les films français.
Allez, le hit parade des films.
Mais non, c'est pareil, c'est pas c'est, hit parade, c'est,
c'est pas grave.
Oh là là, attends, bon bah bref.
Le classement,
films français qui ont eu le plus de spectateurs dans le monde, hein, hors France.
Oui.
Ben il y a des films comme Zorro de Delon, qui ont cumulé, écoute ça. 150 millions de spectateurs. Oui. Et tu n'as pas de films qui ont été projetés après les années 90.
C'est fou, hein.
Tu n'en as pas. Oui. Tu as des films de Funès à 100 millions de spectateurs, de Belmondo, de Bourville, enfin, qui font des 50 et 100 millions. Quand j'ai vu que le film de Delon fait 150 millions, c'est le numéro 1. Mais j'étais estomaqué.
On peut dire qu'il y a l'équivalent en musique, tu sais, parce que si on prend les années 50, si on prend les années 60, les années 70, les années 80, hein, jusqu'aux années 80, on a le punk rock, on a la new wave, c'est une explosion avec les Police, les U2, on parlait de Kate Bush. Ouais. Les années 70, c'est les Bowie, c'est tout ça, c'est énorme. Les années 60, c'est le Swinging London, c'est les Beatles. Les années 50, c'est Elvis Presley. Bon. Aujourd'hui, en fait, les maisons de disques ne font que des compilations des années 50, 60, 70, 80. À partir des années 90, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus de contre-culture.
Mais bizarrement tu remarqueras qu'il n'y a plus de culture. Il n'y a plus de rayonnement culturel français depuis que la culture française est subventionnée par l'État. Je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Je pense.
D'abord parce que je pense que si on parle de musique, si on part sur la musique.
Musique et film. Hein.
La musique, c'était.
Et même littérature.
C'était une contre-culture. La musique était une contre-culture. Regarde aux États-Unis, hein. Les John Baez, les Bob Dylan, tout ça, tous ces protest singers, c'était vraiment. Qui ont œuvré contre la guerre du Vietnam, par exemple, vraiment.
John Baez, qui a une très très belle chanson écrite par Ennio Morricone.
Ah.
Tu vois sur du film.
Here's to you, Nicola and Barnes.
Voilà.
Sacco e Vanzetti.
Sacco e Vanzetti, voilà. Absolument. Les deux Italiens injustement assassinés par l'État américain.
Absolument, magnifique. Et si tu veux, à partir des années 90, il ne se passe plus grand-chose. Il n'y a plus de grands mouvements musicaux. 2000, plus de mouvements. 2010, plus de mouvements. 2020, plus de mouvements. Mais tu sais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a remplacé dans les maisons disques, pardon de le signifier, mais on a remplacé dans les maisons disques à l'époque l'artistique.
Par le financier.
par le financier.
Et tu verras, à l'avenir, nous aurons, nos jeunes aimeront des chanteurs intelligence artificielle, j'en suis sûr.
Oh ben on y est.
On n'y est pas totalement, mais ça va arriver.
Regarde, aujourd'hui, il commence à être difficile de distinguer l'IA de la vérité sur les réseaux sociaux. Ça commence à être...
C'est vrai. Bon, revenons quand même au sujet.
Il y a un vrai brouillage. Oui,
revenons au sujet, voilà. OVNI et pop culture, là, je le remontre. Des rockstars, des personnalités, les ont vus et témoignent. Et Gone Kragel, vraiment, les plus grands. Elvis Presley, David Bowie, Michel Morgan, Darry Cole.
Mohamed Ali.
Jimmy Carter, Ronald Reagan, l'astronaute Gordon Cooper.
John Lennon.
Tous ces gens les ont vus. Question maintenant d'auditeur. Tiens, intéressant ça. Une dame a appelé, nous dit « Le Christ a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Cela ne voudrait-il pas dire qu'il y a d'autres planètes habitées dans l'univers ?»
Ah, ça me touche, cette question-là. Ça me touche beaucoup. Parce que ce Yeshua de Nazareth, c'est quelqu'un qui est tellement cher à mon cœur. Voilà. Oui, absolument. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Ben, j'ai l'impression qu'on est à l'époque où on revient à la spiritualité et le Christ redevient de plus en plus présent dans nos vies.
En moi, il a toujours été très présent dans ma vie, extrêmement présent dans ma vie, toujours, toujours, toujours. Et ça me touche beaucoup. Voilà, ça me touche beaucoup. Oui, oui, absolument. C'est une phrase que j'ai souvent citée, d'ailleurs. Hein. Une phrase que j'ai souvent citée. D'ailleurs, je pourrais en citer une autre. Alors, ça n'a...
Vas-y.
Il y a une phrase que je cite souvent, c'est que le Christ disait, parce qu'on vit aujourd'hui ce gros scandale de ces Epstein. Il y a une phrase dans Matthieu 18, 6, qui dit, où ce Yeshua, ce Christ, disait... Quiconque scandalise un enfant, on doit lui mettre au cou une meule de moulin et le jeter à la mer. Lui qui est venu pour, lui qui est venu avec trois choses, avec le pardon, avec la joie et avec l'amour. Le seul moment où il est très, très dur, c'est par rapport à personnes qui scandalisent les enfants. Voilà, je tenais juste à dire ça.
Ça va, t'as bien raison. Admettons, tiens, deuxième question, admettons que les Américains aient vraiment monté sur la Lune. Quelques années plus tard, ils auraient piloté une sorte de Jeep. C'est un peu gros. Depuis, ils sont au point mort. Pas faux. C'est pas faux aussi. Bonjour. Deux films m'ont fasciné. La guerre des mondes et Planète interdite, bien courtoisement.
Oui, absolument. Bon, la guerre des mondes, magnifique. La guerre des mondes, je crois que c'est 1953. Et le premier, parce qu'il y a eu une adaptation.
Alors c'est avec Tom Cruise.
C'est un roman de Wells, G. Wells. Hein. La première adaptation, c'est 1953. Et la seconde, c'est Spielberg, évidemment, avec Tom Cruise. Spielberg qui prépare d'ailleurs un film, le film le plus attendu aujourd'hui. C'est un film de Spielberg qui va sortir en juin, qui s'appelle Disclosure Day, le jour de la révélation. Et c'est un film sur les ovnis, et la révélation sur les ovnis. Voilà.
D'ailleurs, tiens, tu as parlé d'H.G. Wells. Il a fait un petit canular radiophonique.
Ah, c'est...
Après-guerre? C'est pas
oui.
Lui
C'est Orson Welles.
Ah pardon, Orson Welles, pardon.
Orson Welles
a réalisé un petit canular radiophonique, pardon,
oui.
En expliquant que la Terre était envahie par les Martiens.
Bah, c'est-à-dire qu'il a mis en onde, comme on dit, le roman de Welles, avec l'arrivée des tripodes.
Voilà. Comment les gens ont pris ça?
Bah écoute, ils l'ont plutôt bien pris.
Non mais ils y ont cru.
Il y a une grande légende autour de ça. Il faut faire attention. Il y a une légende. On a forcé le trait. On a raconté qu'il y avait une panique, que les gens, il y avait des suicides, que les gens avaient quitté la ville massivement. Ce qui est visiblement pas vrai. Il y avait simplement, si on remet dans le contexte, il y avait simplement 2% de la population qui avait accès. C'est vraiment les débuts de la radio.
D'accord.
Hein. Donc il y a eu quelques personnes qui se sont inquiétées, mais on a beaucoup beaucoup forcé le trait.
Ouais. Pour le rendre un peu légendaire.
Absolument.
Bonjour. Voir quelque chose, être de bonne foi à cet égard et percevoir exactement ce que l'on voit, cela fait de. Oui, il y a un lien évident avec le complotisme, le fait de dénoncer les complots et le phénomène. Simuler un danger extraterrestre menaçant l'humanité, c'est la dernière carte pour instaurer un gouvernement mondial. Non, des avions d'aluminium et de plastique creux ne rentrent pas dans du béton et de l'acier sans que leurs ailes se détachent comme ils rentreraient dans la crème chantilly. Les techniques de projection d'hologrammes sont bien plus avancées que le public le sait. La réalité objective est que la plus proche étoile comparable, Alpha du Centaure, est à 4 années-lumière et c'est une étoile double, donc pas évident pour stabiliser la vie sur une éventuelle planète. Depuis la Terre, une conversation telle que « Allô, oui, cela prend 8 ans ». Et puis il y a une explication spirituelle, vous qui êtes catholique, Paul l'a écrit, Satan se déguise en ange de lumière. Les francs-maçons font des pactes avec Lucifer, le gouvernement mondial c'est le leur. Tout se tient, tout est lié, atterrissez. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est vrai que Satan est un ange de lumière. En tout cas, il s'appelle Lucifer et c'est un peu le porteur de lumière. Hein, donc oui.
Mais lui nous explique que voilà, parce qu'il y a 4 années-lumière, ce serait trop compliqué.
En l'état de nos connaissances, moi je pense que nous sommes extrêmement primitifs. Extrêmement primitifs. C'est-à-dire que nous avons l'impression d'avoir... évolué, mais je pense que nous, la technologie a un peu évolué, mais nous sommes restés extrêmement primitifs. Arriver en 2026 pour voir qu'on est toujours en guerre les uns avec les autres, qu'on est en train de détruire notre biotope, il faut quand même être extrêmement, extrêmement primitif. Donc, cette personne a raison, mais c'est vrai qu'en l'état de nos connaissances.
Alors, Hélène,
comme disait Socrate, la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien.
C'est vrai. Une dame nous dit, Hélène Danan a écrit qu'elle avait été enlevée par des extraterrestres. Mmh. Elle a écrit plusieurs livres. Mmh. Tu connais Hélène Danan ?
Oui, absolument, absolument. C'est un épiphénomène du sujet, c'est ce qu'on appelle l'abduction.
D'accord, l'abduction. Ça veut dire ?
C'est-à-dire, ce sont des personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres, en tout cas par des créatures exogènes, et avoir subi, certaines personnes ont subi des tests, se sont retrouvées comme des cobayes, des tests extrêmement humiliants. C'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement sérieux. Il y a un personnage américain, nord-américain, que j'aime beaucoup, qui s'appelait John Mack, qui était pédopsychiatre, vraiment à Harvard, hein, une sommité à Harvard, qui un jour aux États-Unis discutait avec Bud Hopkins, qui était un plasticien qui s'est intéressé à ce sujet des enlèvements. Et John Mack, en discutant avec Bud Hopkins, s'est dit « Waouh, j'ai trouvé la névrose du XXe siècle. » quoi, cette espèce de... Donc, il a décidé d'enquêter sur le sujet. Et puis, il a écrit, au bout de plusieurs années, il a écrit un livre qui s'appelle Enlèvement extraterrestre, tout simplement, le titre français. En français, et ça a été un pavé dans la mare parce qu'il disait que sa conclusion c'était que ces personnes avaient vraiment subi. Ces personnes n'étaient ni folles, ni c'était pas des psychopathes, c'était pas des névropathes, c'était des personnes qui avaient subi de vrais vrais traumatismes, des traumatismes qui seraient comparables à des personnes qui auraient vécu un bombardement et sur lesquels les bâtiments se seraient effondrés par exemple.
Et dont personne ne croit.
Et donc, évidemment, personne ne croit. Mais c'est un sujet absolument extrêmement intéressant, les abductions. Chez nous, il faut lire, en France, il faut lire un livre de Marie-Thérèse de Brosse.
Hein, d'accord.
Ancienne grande reporter de chez Paris Match. C'est pas rien, Marie-Thérèse, hein, c'est une amie magnifique, et qui a écrit ce livre, qui avait consacré dans Paris Match à l'époque, le grand Paris Match, des pages et des pages entières au sujet, hein, très courageuse, Marie-Thérèse, et qui a écrit le livre fondateur sur les abductions en France, que je recommande, hein, donc Marie-Thérèse de Brosse. C'est un sujet extrêmement intéressant.
Alors, un monsieur nous appelle, nous dit « Que faut-il penser des restes d'ovnis ou des corps ?» Le problème, c'est que c'est toujours aux États-Unis.
Alors, parce que les États-Unis en parlent, mais il faut savoir une chose, c'est que vraiment, enfin, moi qui me penche sur ce sujet depuis extrêmement longtemps, depuis des décennies, le phénomène est global, absolument global. Hein. Il y a des... Parce que... Je pense que d'abord, nous sommes en transmission directe avec les États-Unis. Hein, on n'a pas de rapport aussi, là aussi soutenu avec l'Amérique du Sud, par exemple. L'Amérique du Sud est fascinée par la...
Énormément d'appels, là, ça bombarde. Je crois que je vais faire que de lire des commentaires.
Par la culture française. Mais par exemple, le Japon. Au Japon, il y a beaucoup de choses. La Russie.
Mais justement, est-ce que...
Moi, j'ai des tas de livres...
De Russes. Oui, parce qu'il y a la Sibérie, tout ça. On sait qu'il y a eu des tombées de choses dont on ne sait pas exactement ce que c'est.
Absolument. Mais on est, tu le sais, Mike, on est en prise directe avec les États-Unis, hein, donc voilà.
Mais dis-moi, est-ce que le sujet en France, rappelle-toi de l'émission de Jacques Pradel, mm-hmm. Où on montre des images...
L'autopsie de Roswell,
est-ce que ça n'a pas plombé le sujet pendant longtemps?
Bien sûr, mais l'autopsie de Roswell, on peut en parler.
Vas-y.
On peut en parler. Il s'est vraiment passé quelque chose à Roswell. je suis affirmatif là-dessus. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Est-ce qu'ils ont récupéré un objet exotique? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? En tout cas, il s'est réellement passé une chose à Roswell. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, Roswell, on peut expliquer peut-être...
C'est-à-dire que
le 8 juillet 47, hein, l'Air Force balance un rapport national en disant... Nous, l'armée américaine, nous avons récupéré une soucoupe volante. A flying disc, un disque volant. Bon, tu peux imaginer que d'un seul coup, c'est, comme on dit aujourd'hui, c'est le buzz, quoi. C'est-à-dire tout le monde ne parle que de ça. Et puis, à 19h, d'un seul coup, au rétropédalage, ah non, c'est trompé, en fait, c'était un ballon-sonde. C'était un ballon-sonde. Donc, l'armée va organiser une conférence de presse. Ils vont montrer ce qu'ils ont récupéré soi-disant. Alors, c'est un petit bout de néoprène, hein, et puis un bout de basalte minuscule. Bon. Déjà, c'est un peu étrange que l'armée déclare le matin avoir récupéré un disque volant où il disait qu'il y avait des débris sur à peu près un kilomètre et montrer deux trucs un peu ridicules. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 8 juillet 47, à partir du 10 juillet 47, on n'en parle plus, c'est fini, hein, c'est terminé, c'est l'histoire, les citoyens acceptent comme conclusion finale le fait que l'armée a récupéré un ballon-sonde. Des années après, c'est un enquêteur qui s'appelle Stanton Friedman aux États-Unis qui va rencontrer un des acteurs principaux de Roswell, le militaire qui à l'époque était tout jeune, qui présentait les débris et qui va dire à Stanton Friedman, on m'a obligé à dire ça, mais je suis allé sur le terrain, il y avait des débris... À perte de vue, c'était des débris très étranges parce qu'on les prenait, c'était des très légers comme ça, comme de l'aluminium, ça se froissait dans la main et quand on ouvrait, ils reprenaient leur forme initiale. C'était des trucs à mémoire de forme, par exemple. Donc le sujet Roswell est relancé et ça va devenir, je pense que Roswell est le dossier ufologique le plus célèbre au monde.
Mais qu'est-ce qui fait que Jacques Pradel...
Alors je t'explique. Au bout d'un moment, l'équivalent de la Cour des comptes américaine en a eu assez de cette histoire et a demandé à l'armée de s'exprimer en leur disant, attendez, là, tout le monde, là, ça devient du complotisme partout, hein, Roswell, donc on vous demande de vous exprimer. Que s'est-il passé à Roswell le 8 juillet 47? Et là, l'armée va dire, on a du mal à vous dire ce qui s'est passé parce qu'il n'y a plus de documents. Comment ça, il n'y a plus de documents? Non, depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre 47, tous les documents ont disparu. Mais si ces documents ont disparu, pourquoi? Ben, ils ont été détruits. Et pourquoi ils ont été détruits? Si ces documents ont été détruits, c'est qu'il faut qu'il y ait des bordereaux de destruction. Ah ben non, il n'y a pas de bordereaux, il n'y a rien. Donc déjà, chose étrange. Voilà. Et à partir de là, on commence à se poser des questions en se disant, donc il s'est réellement passé quelque chose à Roswell. Il faut savoir qu'en même temps, Roswell était une base stratégique américaine où étaient garés les bombardiers qui, de triste mémoire, Mike, ont transporté la bombe à Hiroshima et Nagasaki. Hein. Donc c'était un endroit stratégique de l'armée. C'était pas des biffins, c'était pas des troufions hein, à Roswell. C'était des mecs, voilà. Donc déjà, se dire que des militaires de haut rang disent un truc pareil, normalement ils auraient été sanctionnés pour avoir fait une bêtise en disant on a récupéré un disque volant. Il faut savoir que ça n'a pas été le cas. Ils ont eu des promotions absolument incroyables après ça. Que s'est-il passé à Roswell? Je ne sais pas. Et encore plus étonnant, c'est qu'on a dit qu'on avait récupéré à Roswell un vaisseau avec des corps. Et là, tu vas voir. Toujours la Cour des comptes américaine, c'est l'équivalent de la Cour des comptes, a demandé un rapport à l'armée en leur disant, bon, maintenant, on veut savoir, on arrête de jouer, on veut savoir. Et là, dans le second rapport officiel de l'armée, ils disent, oui, alors concernant les corps, en fait, on avait fait des essais. On avait fait juste des essais avec des dummies. Les dummies, ce sont des mannequins en bois, tu sais, qu'on utilise dans les crash tests. Là. On a utilisé des dummies. Et là, rire général aux États-Unis, parce qu'on sait que les dummies ont été utilisés à partir de 1952. On est en 47. L'armée n'utilisait pas de dummies. Donc, que s'est-il passé à Roswell? La question est ouverte, hein, tout, voilà, le débat est ouvert. En tout cas, il s'est passé réellement quelque chose.
Donc, la dissécation qui a été montrée, oui. Ça, c'était bidon.
Et alors, au dernier moment, ouais. Au dernier moment, débarque sur les chaînes de la planète une autopsie, voilà. Qui visiblement est un faux, absolument. Hein,
ça a coûté la carte de Jacques Pradel, qui était une star.
Absolument. Et on pense aujourd'hui que ce... Tu sais, il y a ce qu'on appelle la désinformation active et la désinformation passive. Et par exemple, de balancer une fausse autopsie, et moi, je pense que ce sont les hautes instances, l'Air Force américaine qui est derrière.
T'en as déjà parlé
avec
Jacques Pradel ?
Comment ?
T'en as déjà parlé avec Jacques Pradel ?
Oui, j'avais contacté
Pradel. Qu'est-ce qu'il dit
Pradel.
Depuis
Il ne voulait pas trop en parler.
Il ne veut pas en parler, c'est pour lui, c'est une douleur, j'imagine.
Moi, à l'époque de mon premier livre, on l'avait contacté, il voulait plus en parler. Visiblement, c'était quelque chose de douloureux pour lui.
Faut se rappeler qui était Jacques Pradel.
Mais oui, mais absolument.
Et du jour au lendemain, comme Patrick Sabatier d'ailleurs, c'est des gens qui étaient des stars et du jour au lendemain n'ont plus fait de télé. Quasiment. Là, aujourd'hui, il fait voix off sur la 11.
Je sais, c'est hallucinant. C'est honteux. Et puis, on a le droit de se tromper.
Bah oui.
On a le droit de se tromper. Pourquoi vivre ça comme une espèce de culpabilité qui handicapante, qui te ferme toutes les portes? C'est ridicule.
C'est vrai.
Mais tu sais, être témoin d'OVNI, je le dis tout le temps, c'est pas un statut enviable parce qu'il y fait seul. Il y fait seul et il y fait froid. Hein. La plupart des temps, ils l'ont payé. Alors, les artistes, au moins, les artistes se disent que...
Bon, on se dit, ils sont excentriques,
oui,
c'est pas grave.
Mais au moins, ils sont plus libres. C'est surtout ça, Mike. Les artistes sont plus libres.
Mais quand tu vois...
À l'époque, ils étaient plus libres.
À l'époque, parce que je pense pas que...
Aujourd'hui, ils sont moins.
Je sais pas, je connais pas les artistes, les noms d'aujourd'hui. Tiens, quelqu'un que j'aime pas trop, Marina Foïs, par exemple, si aujourd'hui elle voyait un OVNI, je pense qu'elle n'en parlerait pas. Elle se dirait, il y a peut-être des subventions CNC à perdre dans cette histoire.
Mais je crois que les gens sont devenus très frileux. Oui.
C'est drôle, hein, parce que les artistes aujourd'hui ils tournent 5-6 films par an, dont Didier Bourdon, et ils font 100 000 entrées. C'est pas beaucoup. Hein.
Ouais.
Et ils prennent beaucoup d'argent, par contre.
Oui, mais il y a un désamour aussi. Il y a un désamour du public.
C'est vrai. Bonjour. En écoutant votre émission en cours pour les ovnis, donc des êtres vivants extraterrestres, pourquoi le Créateur n'aurait pas donné existence à ces derniers? Quand on lit les paroles de Yahvé, on ne peut qu'être surpris qu'il n'aurait pas créé d'autres éléments vivants dans ses créations. Ou alors, il a fait une grosse erreur avec Adam et Ève et leurs descendants et n'a pas voulu en commettre une seconde. Pour les Mayas, lire les ouvrages de Jacques Mailleux.
Oui, absolument. Oui, je les connais, je les ai. Il a raison, ce monsieur, c'est de super ouvrages. Mais on tâtonne toujours, c'est-à-dire que il y a eu des historiens, des anthropologues qui ont travaillé sur les Mayas, mais on ne sait toujours pas vraiment. Voilà, on ne sait toujours pas vraiment.
Bon, et puis tu as cité tout à l'heure la phrase du Christ. Donc bon, cette phrase-là veut dire beaucoup de choses, mine de rien, cher monsieur.
Oui, c'est très beau ce que dit ce monsieur.
Tu sais que les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est le haut du panier, hein. C'est le haut du panier des auditeurs.
Et je les remercie de réagir aussi brillamment.
N'oubliez pas, voilà.
Aussi brillamment.
OVNI et pop culture, Egon Kragel, je le montre à l'écran en plus, préfacé par Jean-Claude Bourret, des rockstars, des personnalités les ont vus et témoignent, Guy Trenel. Allez-y, vraiment, achetez-le, vous allez vous régaler.
Et j'ai une petite anecdote pour ce monsieur.
Vas-y.
J'ai une amie ufologue américaine qui s'appelle Paola Harris, qui est une super... une femme magnifique, et qui avait interviewé le porte-parole du Vatican sur le sujet des ovnis et possiblement des extraterrestres. Et Monseigneur Balducci, qui était le porte-parole du Vatican à l'époque, lui avait répondu au Vatican, nous sommes très ouverts sur la possibilité d'une vie ailleurs. Oui, sans doute que Dieu a créé d'autres, dans cet univers infini, d'autres formes de vie. Et il avait dit, la seule chose qui me gênerait, c'est qu'ils débarquent un jour, ces extraterrestres, et qu'ils me disent Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Là, je serais un peu gêné. J'adore cette anecdote, c'est trop mignon.
Vous avez oublié deux grandes sagas, nous dit une dame. Sissi avec Romy Schneider. Évidemment. Sissi, c'était français comme série ?
Non.
Ah non. Oui, oui. En plus, Romy Schneider était allemande. Oui. Et Angélique. Oui, Angélique, marquise des Anges, bien sûr. Oui. Toujours vivante. Comment oui. s'appelle déjà l'actrice ?
Alors, Angélique, c'est. Comment elle s'appelle ?
Elle encore très... Je l'ai vue encore récemment. Oui, elle est encore du chien.
Elle est magnifique.
Ah oui.
Avec Robert Hossein, Geoffrey Balafré. Voilà.
Mais oui, mais bien entendu, pardon, j'ai oublié. Oui. Je bats ma coulpe. Excusez-moi.
Angélique et le Sultan avec,
voilà.
Avec Jean-Claude Pascal, magnifique.
Chers amis, vous êtes trop pessimistes. Comme ça, comme star, nous avons encore. Alors, j'arrive pas à lire. Sylvie, venez, Sylvie, là, j'arrive pas à lire. Oh, j'arrive pas à lire. T'arrives à lire ?
Voir.
Vous avez comme star, on a encore ? Non, là, je n'arrive pas à lire, je suis désolé, je ne sais pas qui c'est.
Ah non, je n'arrive pas à lire.
C'est pas Nakamura ? Non, je ne sais pas qui c'est. Bon, je ne sais pas. Peut-être. Que savez-vous des propos de Jean-Pierre Petit qui dit avoir parlé à des extraterrestres par ordinateur avant Internet ?
Ah, j'adore Jean-Pierre. J'adore Jean-Pierre. Brillant, magnifique. J'adore quand j'ai la chance de discuter avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, il dessine en même temps. Il s'exprime et il dessine. Et oui, oui, Jean-Pierre m'a raconté qu'il a été confronté à des créatures étonnantes un jour en Espagne. Et j'en profite pour l'embrasser bien fort. J'aime beaucoup Jean-Pierre.
On le salue. Salut Mike, je suis éveillé. Et complotiste, fier de l'être, je vous suis sur beaucoup de choses concernant la géopolitique, les groupes occultes violeurs. Vous voulez que je perde encore une émission ou quoi ? Non, bon, des occultes V, on va dire, et qui font des choses avec des enfants, etc. Bon, très bien. Mais croire aux ovnis implique de croire... qu'on a marché sur la Lune. Or, on n'a aucune image vidéo d'une fusée quittant l'atmosphère terrestre. Uniquement des images retouchées. Vous qui êtes curieux, je vous invite à jeter un œil sur les différents vidéos amateurs de fusées lancées qui se fracassent contre le firmament composé d'eau, dont la Bible et l'islam parlent. Vous allez être stupéfaits. Mais d'un autre côté, marcher sur la Lune et les ovnis, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même
chose. Je sais pas pourquoi les gens font la confusion.
Non.
Donc, tu vois, regarde, madame... Attends, c'est madame, oui, c'est madame, qui nous dit, voilà, je suis complotiste, je suis fier, je crois dans ça,
elle
ça et ça, mais les ovnis, ça, non.
Alors, je voudrais juste dire à la dame une petite chose, c'est-à-dire croire, moi je pense vraiment humblement que pour appréhender ce dossier des ovnis de la façon la plus sérieuse et la façon la plus pragmatique, il faut surtout ne pas croire. Parce que croire, c'est une profession de foi.
C'est vrai.
Et là, nous ne sommes pas dans une synagogue, nous ne sommes pas dans une église, nous ne sommes pas dans un temple. Hein. Donc, c'est plutôt aborder le sujet de façon...
scientifique.
Scientifique, absolument. Et je dis tout le temps, il faut vraiment éviter la croyance et la superstition quand on...
Bien sûr. Alors, voilà. Il nous reste 10 minutes, et j'ai encore beaucoup de questions qui arrivent pour le coup. Pouvez-vous nous parler du projet Blue Bean ? Cela consistait à repousser une attaque d'extraterrestres.
Oui, le projet Blue Bean. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que... Et je rebondis sur ce que aussi un auditeur disait à juste titre, c'est-à-dire que... On peut se poser la question sur cette divulgation aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment, Mike, de façon concrète, une divulgation en marche. Hein, tu as vu ce qui s'est passé le 14 février dernier, où on a Barack Obama qui nous dit « Aliens are real ».
Ils sont réels.
Et puis quelques jours après, oui, les extraterrestres, c'est réel. Et quelques jours après, on a Donald Trump dans un avion qui dit « Ouh là là, Obama a fait une erreur, il n'aurait jamais dû parler de ça parce que ces sujets sont classifiés et moi, je vais les déclassifier ». On dit que normalement, Donald Trump devrait déclassifier tous les dossiers Tauchi, tous les dossiers névralgiques sur ces ovnis au mois de juin. Hein, on en est là. Et d'ailleurs, il y a le film de Spielberg qui sort en juin, qui s'appelle Disclosure Day, le jour de la révélation. Bon. Alors, pourquoi tout arrive en même temps ? Est-ce que cette divulgation peut être aussi une arme hein, de, de distraction massive, hein, parce qu'on sait que ce qui se passe aujourd'hui avec les dossiers Epstein et tout ça, c'est un peu rude de partout. En tout cas, il faut se poser des questions. Voilà, il faut se poser des questions.
Alors bonjour, un des principaux physiciens théoriciens contemporains, Richard Feynman, faisait remarquer que l'univers comptait au moins 1 milliard de galaxies, chacune renfermant au moins 1 milliard d'étoiles. Mmh. Il y a donc une probabilité non nulle qu'une vie existe ailleurs. Par ailleurs, la matière visible est composée de 74% d'hydrogène, 24% d'hélium et les 2% restants sont essentiellement composé de carbone, d'oxygène, d'azote. Bref, des principaux composants de la biologie du carbone avec l'eau comme molécule la plus présente dans l'univers. Ce qui fait que si une civilisation technique existe, elle ressemblera très certainement à ce que nous connaissons. Le problème est celui de la géométrie de l'espace en tant que géométrie à plusieurs dimensions et le développement de la physique depuis la relativité montre que nous avons beaucoup de mal à imaginer un espace à plusieurs dimensions, mais celui de la relativité locale, l'espace-temps à quatre dimensions est mal compris, tout reste ouvert.
Mmh. Très intéressant, très intéressant. Ce monsieur a raison. Enfin, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Hein.
Je ne sais pas.
En tout cas, cette personne a raison. Pour une raison. Enfin, c'est-à-dire, il y a 20 ans, moi je me souviens, il y a 20 ans, il y a 25 ans, même en couverture, par exemple, de Science et Vie, on nous disait que la vie était un phénomène tellement incroyable, c'est-à-dire que pour qu'il y ait eu de la vie sur notre planète, il a fallu tellement de paramètres rares que la vie n'existe que sur notre planète. Ça, c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, les mêmes magazines nous disent, en fait, la vie est sans doute le phénomène le plus banal dans tout l'univers. Hein, parce que la vie, c'est quoi? C'est juste un état animé de la matière.
Mais est-ce que ça veut dire, comme le dit ce monsieur, que contrairement à ce que nous dit le cinéma, des êtres venus d'ailleurs nous ressembleraient?
Pourquoi pas? Mais alors, si on regarde la biodiversité de notre planète, hein, entre un poulpe, hein, un octopus, une girafe réticulée, un flamant rose et la pyrite du chou qui est un papillon magnifique, toutes ces vies qui sont terrestres ne se ressemblent pas du tout.
C'est vrai.
Il y a une palette absolument incroyable. Et c'est une palette magique. Magique. Peut-être que sur d'autres planètes, je ne sais pas. Alors là, je suppute, hein, avec humilité, c'est tellement subjectif. Peut-être que sur d'autres planètes, il y a aussi une biodiversité comparable à la nôtre. Peut-être pas. Mais peut-être que oui, peut-être que non.
Mais là, tu parles d'animaux, pas d'êtres humains. Parce que les êtres humains, est-ce qu'ils pourraient avoir des extraterrestres humains, on va dire? Peut-être qu'ils puissent nous ressembler, c'est possible, parce que visiblement, d'après ce que dit ce monsieur, pour qu'il y ait de la vie, il y ait besoin de carbone, d'hydrogène, etc. Et que donc, du coup, en fait, c'est ce que monsieur sous-entend.
Oui, mais animal, c'est des créatures qui possèdent une âme.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que...
Et l'homme est un animal social, dans sa définition. L'homme est un animal social.
C'est vrai, mais est-ce qu'un animal ne pourrait pas créer une soucoupe?
Non. Non, non, absolument. Voilà. Oui, oui, oui. Ce qui nous distingue du monde animal, c'est que nous avons cette propension à créer de nos mains des choses absolument étonnantes. Mais les animaux ont eu aussi leur propre intelligence.
Bien sûr. Alors, on nous parle de Jean-Pierre Petit encore, mais dans le commentaire, il y a aussi de Lucien Barnier. Vous nous parlez de Lucien Barnier, précurseur à la radio dans les années 50, dans son émission « Aux frontières de l'inconnu ». Je ne savais pas qu'il y avait cette émission.
Oui, oui, je connaissais cette émission.
Ouais. Des Génial. Frères Bogdanov.
Ah oui.
Des regrettés Grishka, frères Grishka, de Bogdanov.
Oui, absolument.
Et aussi de la science-fiction et des frères Stugatsky, pique-nique au bord du chemin.
Ah, ça je ne connais pas par contre.
Tu ne connais pas? Non. Des frères Stugatsky.
Non, ça je connais.
Les frères Bogdanov disparus
oui,
trop tôt.
Oui, oui.
De manière bizarre quand même. Hein. Je suis assez sceptique de ce qui s'est passé.
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont partis en même temps, quoi, quasiment.
C'est quand même.
Ouais. Ah, ils ont fait vraiment avancer.
Je pense qu'une enquête s'imposerait.
J'étais très très ami avec Jean-Pierre d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la toute première émission de Temps X était présentée par les jumeaux Bogdanov et par Jean-Pierre Petit. Et, leur toute dernière émission, Jean-Pierre les a accompagnés sur toute leur histoire.
Deux minutes. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre OVNI et pop culture, des rockstars, des personnalités les ont vus et témoignent? Egon Kragel, préface Jean-Claude Bourré, chez Guy Trédaniel. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, cher Egon?
Ben partout, un peu partout. Hein.
En librairie?
Oui, en librairie et puis sur les plateformes de vente. Je l'ai vu un peu partout.
Vraiment, allez-y, voilà. Achetez ce livre, il est passionnant. 400 pages quasiment.
C'est une façon un peu ludique, plus ludique d'aborder oui. Le dossier.
Oui, un monsieur nous appelle, oui, OVNI extraterrestre existe, on peut le prouver par des témoignages. Voilà, bon.
Alors, justement, mon postulat depuis toujours, je peux terminer avec ça.
Vas-y.
C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire, chacun à sa façon, la vérité est un miroir brisé, hein, chacun de s'emparer d'un éclat. Moi, ma façon, ça a été de faire une différence entre la vérité et la réalité du phénomène. La réalité du phénomène, pour moi, comme dit ce monsieur, elle est induite par les expériences, hein, donc par les témoignages. Hein, et puis la vérité, la vérité en philosophie, on sait que c'était juste le résultat d'un processus de pensée dont c'est subjectif.
Il faut dire les choses, il y a derrière ce livre OVNI et pop culture un vrai travail journalistique, parce que toi tu es journaliste,
oui.
Avant tout.
Bon, c'est des années de travail. Hein.
Voilà, des années de travail. Et ouais. Enfin, bah, vraiment, je le conseille parce que ça se lit très bien.
Il est en trois parties.
Et dans mon anecdote,
il est en trois
Marie Laforêt, d'ailleurs, Marie. Aussi, la belle Marie est là. Ouais. Michel Morgan,
Armand Altaï, notre Armand magnifique
qui a
fait une chanson qui s'appelle Le message de l'espace.
Ah oui, c'est vrai.
Mais ouais, faut écouter la chanson d'Armand Altaï, voilà. Elle est grandiose.
Donc achetez vraiment ce livre, vraiment livre que j'ai beaucoup aimé. Merci à vous d'avoir été si nombreux, d'avoir autant commenté. T'as fait sauter le standard. Là,
en tout cas, merci à vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci à vous. Prenez soin de vous, surtout.
Voilà,
merci.
Prenez soin de vous. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.
Vous venez d'entendre Les Controverses, dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie, samedi 14 mars 2026, de 10h30 à midi, et réalisées par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris.